Donc effectivement, ce premier moment de formation est un peu consacré à un état des lieux, puisqu'on va vous présenter une enquête auprès de professeurs des écoles, ce que je dirais standards. Hein. On souhaitait quand même, pour démarrer cette formation, vous demander de prendre le temps, individuellement, de faire un état des lieux sur 5 minutes, sur vos représentations autour des coins maternels, c'est-à-dire répondre à deux questions, les coins en maternelle, pourquoi, comment. On ne va pas faire une mise en commun de ces idées. Notre intention est que vous ayez un peu trace de ce que vous pensez au temps zéro de cette formation, de façon éventuellement à pouvoir y revenir à la fin de la formation. Donc l'idée, c'est pas que vous fassiez un texte élaboré, c'est peut-être de noter un certain nombre d'idées clés pour vous, maintenant, quand on dit « coin » en maternelle, puisque c'est un mot qu'on utilise et c'est dans notre titre, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Pourquoi y a-t-il des coins à la maternelle et comment? C'est-à-dire, en gros, vous allez retrouver les questions qu'on a posées aux collègues, professeurs des écoles. Donc, pas plus de 5 minutes. Bon, je crois qu'on arrive au bout des 5 minutes. Je vois que beaucoup de plumes sont déjà posées. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est vous garder ce document. On vous demandera au moment du bilan final de le ressortir éventuellement pour reprendre appui sur vos idées de départ. Donc, effectivement, le premier travail qu'on a fait dans ce groupe de recherche a été de mettre en place une enquête sur les coins maternels. Donc, effectivement, on s'est centré sur cet aménagement scolaire qui est couramment mis en place dans les classes de l'école maternelle, les coins, sachant que l'organisation spatiale de la classe maternelle la spécifie, vous le savez, on y trouve les coins, l'espace regroupement, les tables individuelles pour travaux, le coin sieste, le coin accueil, et les coins sont des aménagements qui sont organisés comme des lieux à vivre et pour agir, et ils sont souvent dédiés à des manipulations symboliques. Donc cette enquête par entretien a été menée auprès de 11 enseignants d'école maternelle. C'est une enquête sous forme d'entretien qui a été menée, entretien d'une demi-heure que j'ai menée dans un certain nombre d'écoles. L'idée d'une demi-heure, c'est pour que ce soit une durée suffisamment courte pour obtenir l'accord des enseignants qui ne sont pas toujours enclins à confier leur conception du métier ni à passer du temps sur un temps long. Donc on les a menés, ces entretiens, autour de quatre questions, en gros, que vous avez ici. C'est quelle représentation des coins, des enseignants, quelles fonctions ils attribuent à ces coins, quelles sont les règles d'action et quelles actions ils mènent en relation avec ces espaces, et quels éléments de réflexion ces enseignants ont sur leur pratique. Alors, vous avez ici le tableau, en gros, de ces 11 entretiens. Donc, en fait, ils ont été menés dans des classes maternelles de la petite section à la grande section. On a même une grande section CP, dans différents contextes d'exercice. Alors, école en milieu rural, école en milieu urbain, école privée, école publique, zone d'éducation prioritaire. Et c'est moi qui ai conduit ces entretiens de façon semi-directive par des questions ouvertes. En gros, j'ai fait une sollicitation d'ordre global concernant la diversité des espaces de la classe et en particulier de ces coins. Et je leur ai demandé de me les décrire, ces espaces, à expliquer leurs principes d'organisation, leur mode de régulation, leur installation, leur histoire, leur possible évolution, ainsi que leur éventuelle place dans un projet. Donc, effectivement, mes idées étaient autour de l'explicitation des intentions du maître, des fonctions qu'ils attribuaient au coin et de leur potentialité dans le domaine découverte du monde, puisque c'était ça qu'il y avait derrière. Donc, potentialité dans le domaine découverte du monde, tant par les aménagements opérés que par les sollicitations, et de façon à repérer la fécondité de ces lieux et bien sûr exprimer, que les professeurs puissent exprimer leur satisfaction, leurs insatisfactions. Alors, parmi les enseignants, ont été interviewés donc 11 enseignantes. Parmi ces 11 enseignantes, il y avait 3 maîtresses formatrices et une qui participe au groupe de recherche qui est à ma droite et qui, effectivement,
qui a testé le premier entretien.
Qui pourra vous faire un peu part de l'évolution de sa représentation, puisque elle peut relire son entretien après 3 ans ou 4 ans de recherche. Donc, effectivement, on a caractérisé l'expérience professionnelle par l'ancienneté dans le métier, l'ancienneté en classe maternelle, et puis bien sûr l'implication dans la formation des maîtres et les responsabilités dans l'institution. Alors, je vais vous présenter un petit panorama de tout ce que j'ai pu repérer. Donc, en petite section, vous avez en gros des choses que certains connaissent, je pense. Bon, ce qu'on voit sur ce tableau, je ne vais pas vous lire ce tableau, mais c'est l'importance de ce qui est en haut à gauche, autour de coin cuisinette, coin poupée. Alors, il y a différentes désignations. J'ai des désignations du type, c'est la nurserie, c'est le coin bébé, le coin toilette, le coin coiffeuse, le coin repassage, le coin déguisement. Donc déjà, une importance assez grande importance en petite section. On a en petite section aussi, bien entendu, des coins qui sont autour de bricolage, de construction, Lego, cube, maison, coin voiture, coin garage. Vous avez, je vous ai mis en bleu, tout ce qui nous renvoie un peu à l'aspect découverte du monde, mais nature, donc coin des fleurs, coin des escargots, coin des oiseaux, la ferme. On retrouve également des bacs à eau, des bacs à graines, des bacs à riz. Et puis, ce qui est en vert, c'est tout ce qui tourne autour de, quelque part autour de l'écriture, la lecture, la future, donc autour de coin bibliothèque, coin écriture, coin peinture, piste graphique, tableau. Là, sachant que finalement, c'est une liste. Donc, quand je vous dis tableau, c'est dans une classe. C'est-à-dire que le professeur laisse ses élèves devant le tableau pour utiliser les craies. Bien entendu, on retrouve forcément le coin regroupement. On a le coin ordinateur. Et puis, on trouve des coins musées, des coins exposition. Donc, vous voyez une grande diversité de coins. Alors, ce qui caractérise quand même ces petites sections, c'est le soin qu'un certain nombre d'enseignants apportent à l'aménagement de ces coins. Ici, vous avez des photographies qui sont faites dans une classe de petites sections. Vous remarquerez quand même la richesse, en particulier dans la photo de droite, donc qui est le coin poupée avec le placard, avec la banderie, avec les vêtements. Donc, les professeurs y apportent beaucoup d'attention sur ces petites sections. Ici, vous êtes toujours en petite section. Vous avez les bacs à graines, bacs à riz, etc. Et puis, vous avez des espaces de jeux de construction. Et quelque chose qu'on vous montre aussi, c'est que on en reparlera, la place dans la classe, la place disponible, c'est quand même quelque chose de déterminant. Et vous avez des systèmes de coins qui sont rangés avec du matériel sur des étagères qui sont sortis, positionnés sur des tables. Donc ça, c'est un coin jeu de construction qui est prêt à l'usage, prêt à l'emploi. C'est-à-dire que l'enseignant a sorti de façon à ce que ses élèves puissent aller autour de cette table. En moyenne section, on retrouve bien évidemment coin cuisine, coin dinette. C'est un lieu qui diminue un petit peu. On retrouve là, par contre, je dirais que ça augmenterait peut-être un petit peu. Coin garage, coin manipulation, jeu de construction, coin jeu, les caplas. J'ai le mot « coin de découverte » qui est apparu. Parce que jusqu'ici, personne ne me parle de découverte du monde. Ça, c'est assez intéressant. Moi, ça a été une grande surprise pour moi. Je ne vous le cache pas, puisque mon histoire est que je suis formatrice IUFM et que je vais souvent chez des maîtres formateurs ou dans des classes, voire des PE2, mais la titulaire est rarement là, puisque c'est le PE2 qui est à la place de la titulaire. Le mot « découverte du monde » est un mot qui ne sort pas spontanément. Donc là, j'ai le mot « coin de découverte » qui est apparu. Et puis, vous voyez que dans ces coins de moyenne section, on retrouve coin bac semoule, etc. On a une importance plus importante donnée au coin livre, bibliothèque, coin langage, avec des mots comme coin langage, coin lecture, coin graphisme. Coin audio, c'est la photo. cartographie qui est en bas à droite, c'est-à-dire un coin où les enfants vont avec des magnétophones et des casques écouter des histoires, des comptines, de la musique, avec quelque chose quand même que je dois vous dire par rapport à cette collègue professeure des écoles, ce ne sont pas les enfants qui allument dans cette classe-là, c'est le professeur qui va allumer, vous voyez. Quand je suis repartie, elle s'est dit, tiens, ce serait peut-être intéressant que je laisse les enfants apprendre la manipulation de ces magnétophones. Et puis, bien sûr, vous retrouvez le coin regroupement. Donc, ici, quelques photographies. Hein. Vous avez le coin peinture, le coin capla, et puis le coin découverte, ici, qui est un coin autour de plantes, qui aussi, même chose, question, qui arrose les plantes? Est-ce que ce sont les enseignants? Est-ce que ce sont les élèves? Alors, en grande section, on retrouve beaucoup moins les coins dinettes, coins poupées. J'ai même été dans une grande section où les coins étaient là, mais ils étaient là parce qu'on est en maternelle. C'est-à-dire que l'enseignant n'avait pas grand-chose à en dire. Elle utilisait ses coins uniquement le matin pour réguler l'accueil. Et de toute façon, elle était dans un discours, on n'a pas le temps. Il faut que les élèves apprennent à se préparer au CP, à lire, à écrire. Donc ça, c'était une extrême. Mais globalement, on retrouve donc moins de coins dinettes, moins de coins de poupées. On retrouve les coins bricolage, capla, les gauges de construction. Alors là, c'est en grande section que j'ai eu la première fois quelques témoignages autour de coins découvertes. Une collègue qui a des petits coins expérience, des petits coins d'expérimentation, d'observation. Et puis j'ai une autre collègue là, qui est une collègue maître formatrice, qui avait, quand je suis venue la voir, un coin science, qui était, au moment où je suis allée la voir, un coin poussin, puisqu'elle avait eu une couveuse et des éclosions, donc elle avait des petits poussins. Une autre collègue qui a un coin escargot, et puis vous avez piles électriques, graines, etc. Donc c'est en grande section simplement que j'entends parler de découverte du monde. Vous retrouvez coin puzzle, coin bricolage, et puis vous voyez en vert à droite, ici vous avez une importance, bien évidemment, hein, c'est évident, autour de lecture, coin où sont rangés les jeux de lecture et d'observation, coin bibliothèque, coin livre, coin écriture, coin lecture, coin graphisme, coin Minitel. Et vous avez l'apparition des coins informatiques qui sont d'ailleurs, pour ce que j'ai vu, utilisés souvent... non pas forcément par rapport à la lecture, à l'écriture, mais plutôt par rapport aux mathématiques, avec l'utilisation de jeux éducatifs, etc. Et bien évidemment, toujours le coin regroupement. Donc le coin informatique en grande section, un coin bricolage qui est aussi un coin qu'on range. Alors, méthodologiquement, là, chaque entretien a été retranscrit intégralement. J'ai fait des transcrits afin qu'on puisse extraire les données significatives sur les discours des enseignants, sur leurs observations, sur leurs actions, l'analyse de la manière dont ces enseignants se représentent leur rôle, leur classe, leurs écoles. Ce qu'ils disent de leur pratique nous a semblé important pour constituer un accès à leur représentation. En lien avec le domaine de la découverte du monde. Donc, effectivement, c'est un petit peu ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter les représentations des enseignants sur les coins et leurs fonctions. Je vais vous parler des interactions entre les coins, les élèves, les actions d'enseignants et l'environnement de travail. Distanciation, je pense qu'on ne le fera pas forcément. Ça va dépendre du temps dont on dispose. Donc, les représentations des enseignants de maternelle sur les coins, leurs fonctions. Donc, je vais vous dérouler successivement, en vous les illustrant, les différentes fonctions qui sont attribuées. Vous avez d'abord le besoin de jeu des élèves. Les enseignants parlent du besoin de jeu des élèves de maternelle. Vous avez un deuxième point qui consiste à dire que ça a une grosse fonction de régulation de la vie de la classe. Troisième chose qui apparaît très fortement, les potentialités de ces coins pour la socialisation. Ensuite, apparaissent, pas toujours, mais quelque chose d'important, qui est la contribution pour les apprentissages. Et enfin, on constate une tension entre développement de l'autonomie des élèves et intervention potentielle de l'enseignant. Donc, je vais vous illustrer ces représentations par des extraits de ces transcripts. Donc, je reprends le premier point, le plaisir et la nécessité des jeux des enfants. Donc, vous voyez ce que disent les enseignants. L'entretien numéro 4, ils ont encore besoin de ces coins-là pour des raisons ludiques. Ils ont besoin de jouer. Ensuite, mais je crois qu'il y a aussi cette notion, cette notion de plaisir, d'aller faire de temps en temps, choisir un petit peu ce qu'on a envie de faire. Donc on est sur jeu, sur plaisir, sur envie, ce qu'on a envie de faire. Et puis, il y a tous les jeux d'imitation, toute la fonction symbolique. Je pense que c'est important à ce titre-là pour les gamins. Il y a tous les jeux de construction, on est sur le mot jeu de construction, hein, aussi qui permettent de développer la motricité quand même. Donc voilà quelque chose qui est très fort. Nécessité de jeu qu'on retrouve chez beaucoup d'enseignants de classe maternelle. Deuxième point qui est développé, c'est les fonctions de régulation de la vie de la classe. Donc, pour les enseignants, c'est vraiment une fonction indispensable pour la régulation au moment de l'accueil des élèves qui n'arrivent pas tous au même moment et pour le déroulement de la journée de classe. Alors, vous avez tous les témoignages autour de l'accueil. Alors, en général, le matin, c'est vraiment un travail libre. C'est une question d'accueillir l'enfant le matin. Comme ça, il choisit son activité. Je ne l'oblige pas à aller vers quelque chose. Il va vers ce qui l'attire le plus. Ça, c'est l'accueil. C'est l'accueil, et puis c'est aussi le réveil de la sieste. Hein. Je ne l'ai pas mis là, mais... Et puis, il y a aussi les différences de vitesse des élèves. Oui, quand il y en a qui travaillent plus rapidement que d'autres, ils ont fini et chacun va à son rythme. Et donc, ceux qui ont fini vont aller dans ces coins pour jouer. Et puis, bien évidemment, vous avez là la classe grande section CP. Donc là, c'est les grandes sections vont beaucoup plus régulièrement que les CP, par exemple. Les CP, c'est un après-midi où il y a un moment de libre pour eux. En gros, cette classe de grande section CP, on sent bien que là, il y a du délestage des grandes sections pour pouvoir s'occuper des CP. Alors, une troisième représentation importante, c'est les potentialités pour la socialisation. Le fait de jouer ensemble, que les enfants se retrouvent en situation d'être avec les autres. Donc, vous voyez, par contre, pour les Legos, c'est pas tellement pratique parce que c'est pareil, il faudrait un espace un peu plus grand pour jouer à plusieurs. Donc, c'est un espace Lego qui est petit. Et ce que souhaiterait la collègue, c'est pouvoir avoir de la place pour que les enfants y jouent à plusieurs. Et puis, un autre entretien, ils apprennent forcément puisqu'ils apprennent déjà à jouer ensemble, donc à pas se disputer. Ils doivent travailler sur les règles de vie et sur le langage, bien évidemment. Alors, la contribution pour les apprentissages. Donc, une contribution de ces espaces pour les apprentissages est évoquée. Alors, avec un certain nombre d'items. Premier item, apprentissage par les manipulations qu'ils permettent. Donc, là, vous avez un extrait qui dit qu'effectivement, ça dépend, je dirais, de chaque enfant. Certains doivent y aller plus souvent. Certains enfants ont difficulté. Ils apprennent sûrement plus à faire autre chose ou d'une autre manière, de manipuler, en fait. Donc, une heure, c'est le minimum, je pense. C'est-à-dire que pour cette enseignante, c'est important que certains élèves aillent manipuler dans ces espaces. C'est contribution pour les apprentissages. Deuxième entrée, comme contribuant au développement et au repère de compétences, c'est-à-dire développement des compétences des enfants et repère de compétences des enfants par le maître. Donc, vous avez ici un extrait autour de coin cuisine. En fait, je vais vous lire. Voilà, donc c'était un coin cuisine qui habituellement est un coin libre. Donc, c'était finalement un atelier avec consigne. Vous voyez, vous avez un autre mot qui apparaît. Atelier, et vous avez le mot consigne. On va en reparler. Il est devenu un atelier avec consigne le temps de ces petits exercices-là. Donc, c'est une façon ludique, déjà moi, de voir un état des lieux par rapport à ce qu'il savait, aussi au niveau du langage, des ustensiles de cuisine, et tout ce qu'il fallait après, donc. Ça me permettait de travailler un peu plus concrètement tout ça. Bon, c'est des extraits de transcripts. Ça explique un peu la... peut-être l'incohérence dans le texte. Alors là, on voit bien qu'elle a atelier, consigne, où elle gère, et puis, en parallèle, ce même espace, coin. L'avantage des coins, c'est qu'ils prennent vraiment le matériel tel qu'il est en fonction de leurs compétences. C'est-à-dire qu'un enfant qui est très compétent, il va réussir à aller au-delà en manipulant et en s'essayant avec les outils. On sent bien que dans cette classe, sur un même espace, c'est soit en autonomie où les élèves vont aller en fonction de ce qu'ils sont capables de faire, et puis à d'autres moments, elle y met des consignes et à ce moment-là, elle ne l'appelle plus coin, elle l'appelle atelier. Alors, troisième point par rapport aux apprentissages, pour les enseignants, c'est aussi un lieu qui permet des réinvestissements, donc un tout petit bout dans le transcript, là bien, j'ai envie de dire qu'ils améliorent des choses qu'on a pu faire et qu'ils peuvent, qu'ils reprennent, qu'ils retrouvent. Donc, considéré comme un lieu de réinvestissement. Donc, vous voyez que, pour résumer... Si on résume un petit peu tout ça, le coin est considéré comme un lieu d'activité libre, qu'on souhaiterait assez vaste, je dis qu'on souhaiterait parce que ce n'est pas toujours le cas, assez vaste et agréable pour les élèves, non contraint, car accessible à tout moment, de manière facultative, sans consigne particulière, utilisé en délestage. Alors, ça, ce que je dis là, ça ne veut pas dire que les enseignants n'ont pas mis en place des règles de fonctionnement. En gros, on trouve souvent des systèmes de régulation du nombre d'élèves dans le coin. Style, pour un coin cuisine, il y a 5 colliers rouges disponibles. Une fois que les 5 colliers rouges disponibles ne sont plus accrochés à l'endroit où ils doivent être accrochés, les élèves savent et ont appris qu'il n'y a plus de place dans cet espace, ou des petites pinces à linge. Mais il y a des régulations qui sont mises en place dans les classes pour que toute la classe ne se retrouve pas en même temps au coin cuisine. Donc ça, je l'ai pas mis. Alors, ce que permettent ces coins, donc en gros la socialisation, l'autonomie des enfants, des jeux d'imitation, des échanges langagiers, l'exercice de la motricité fine, le développement de l'imaginaire... Ces espaces sont soit stables, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas depuis la rentrée jusqu'à la fin de l'année scolaire pour certains. D'autres les font évoluer. On en reparlera aussi. Et puis ce sont soit des coins permanents. Bon, on a parlé tout à l'heure des coins dinettes. Ce sont souvent des coins permanents ou temporaires. Je vous ai parlé tout à l'heure du coin poussin, du coin escargot. Ça, c'est forcément temporaire, hein, puisque les poussins, ils finissent par être suffisamment grands pour qu'ils retournent à la ferme ou d'où ils viennent. Mais aussi temporaire, parce que le maître a décidé d'enlever cet espace-là. Alors, ce sont des lieux de réinvestissement. Alors, sur lieu d'apprentissage, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ce n'est pas une idée partagée par tout le monde, ça. C'est-à-dire qu'il y a, pour certains, ce sont des lieux d'apprentissage, mais pour beaucoup, ce ne sont pas des lieux d'apprentissage. Le lieu d'apprentissage, c'est plutôt l'atelier. Donc, effectivement, on retrouve dans le vocabulaire employé par les collègues le coin et l'atelier. Et l'atelier se distingue du coin parce qu'il est structuré, parce qu'il y a des exigences, il y a des consignes précises et il y a un pointage. Donc... Effectivement, on est ici sur une forme de représentation sociale selon Jodelet, c'est-à-dire une forme de connaissance que partagent tous ces enseignants, socialement élaborée, partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. Alors, dans un deuxième temps, on est allé regarder... Les interactions entre les coins, les élèves, l'action de l'enseignement, l'enseignant et l'environnement de travail. Alors, l'enquête atteste cependant d'un certain malaise relativement à ces espaces dans le discours d'un certain nombre d'enseignants qui, en fait, ont une certaine peur de la désorganisation et où ont peu d'interrogations par rapport à ces coins qui, comme on vous l'a dit, quand on est en classe maternelle, on sait qu'on a des coins. On ne les interroge pas forcément. Ils sont là. Alors souvent, le fait que je vienne à lancer des choses dont on a eu les retours après, parce qu'ils se sont dit, tiens, effectivement, j'avais jamais réfléchi à ça, quoi. Hein. Donc pour comprendre finalement les buts, les règles d'action de ces enseignants, on a, dans un deuxième niveau d'analyse, étudié quatre principales centrations des discours relatifs à ces coins. Donc ces quatre centrations sont les actions des élèves, la relation avec l'environnement de travail, les actions des enseignants et les dispositifs et leurs aménagements. Alors, certains enseignants vont centrer leur discours sur les actions des élèves, c'est-à-dire qu'ils vont essentiellement raconter ce que font les élèves et leurs activités. Ici, vous avez « j'ai des Legos qui sont aimantés, je pense au petit Flavien parce que je le vois encore, je l'avais filmé, c'est un enfant très turbulent ». Il est resté, mais je ne sais pas, peut-être 10 minutes à observer ces aimants-là et à les tourner vraiment. Il était intéressé. Pour lui, c'était sa découverte. Donc, cette enseignante-là, elle raconte essentiellement ce que font ses élèves dans ce coin qui est un lieu là où il y a des aimants. Donc, ensuite, on a des centrations des discours sur l'environnement de travail. Donc, beaucoup de choses du type contrainte d'espace. Vous voyez, on n'a pas de place dans l'école, on n'a pas beaucoup de place dans la classe, on n'a pas beaucoup de place pour mettre des coins dans tous les coins. Donc ça, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. On n'a pas de place, quoi. Et, soit pas de place dans l'école, soit pas de place dans la classe. La classe est trop petite. Et puis, peu évoqué, mais un petit peu, projet d'école, parents. On a même une classe où les parents... reste le matin jouer avec les enfants. C'est ce qui m'a surpris. Évidemment, rôle de l'ATSEM. Et puis, interaction avec les collègues, avec des échanges d'espace partagé aussi, entre deux classes. Et puis, vous avez des centrations du discours autour des interactions avec les élèves. Donc, action des enseignants. Est-ce qu'on incite? Est-ce qu'on régule? Est-ce qu'on participe? Est-ce qu'on joue avec les élèves? Et puis, vous avez des éléments autour de l'organisation, des choix, de l'apport du matériel. Alors, ce qui est intéressant aussi, on a essayé de regarder quels étaient les savoirs évoqués par les enseignants dans leur discours. Donc, on a un certain nombre d'enseignants, qui ont un certain nombre de savoirs qu'on a appelés savoirs de la pratique. C'est-à-dire, en pratiquant, on finit par apprendre. Donc, vous voyez, là, elle parle d'un coin construction. Elle dit, la collègue, il faudrait qu'il soit presque central, comme le coin des livres. Je l'avais voulu central. Parce que j'avais remarqué dans le passé que souvent, le coin des livres n'était pas fréquenté s'il était trop loin du groupe des petits. Donc, il y a un certain nombre de choses que les enseignants essayent, testent et puis modifient d'année en année. Et puis là, vous avez une enseignante qui est une jeune enseignante, si je me souviens bien, qui fait appel à ce qu'on a appelé des savoirs pour la pratique. C'est en gros ce qu'elle a appris en formation. Donc, alors je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est en se trompant. Ça, c'est une devise de là où j'ai fait ma formation. Et l'erreur est constructive, et ça, c'est vrai que ça m'est resté, parce que c'est vrai, c'est en se trompant, justement, qu'on apprend. Donc ça, c'est vrai que donc voilà. Et puis, on a des composantes qui sont mêlées dans les discours, c'est-à-dire, à la fois, c'est en pratiquant qu'on essaye, qu'on apprend, qu'on modifie, et en même temps, on a appris des choses en formation, et on met ça en relation. Donc, je vais vous le relire. Oui, il y a un coin livre bibliothèque, et là, ils y vont énormément. Et je suis assez surprise de ça, parce que la bibliothèque, je l'ai mise dans un coin très accessible, parce que j'étais assez surprise quand j'étais dans la classe de Anne-Cécile, à côté, là, une bibliothèque que je croyais bien, parce qu'elle était sous la mezzanine, dans un petit coin tranquille, les enfants n'y allaient pas. Alors, je ne comprenais pas, parce que tout ce qu'on avait pu dire quand on était en formation, quand j'ai rencontré des formateurs, qui disaient « bon, il faut que ce soit isolé ». Et puis, les enfants n'y allaient pas. Donc, une espèce de réflexion sur des contradictions qu'elle a constatées. Et puis, on a l'enseignante numéro 11, là, qui nous donne des indicateurs d'une pratique réfléchie là sur sa place et la place des élèves. Elle nous dit, donc elle parle d'abord des ateliers, hein, parce que si les élèves, ont une consigne de travail, enfin pas au coin, mais en travail ordinaire, elle parle des ateliers, ils ont une consigne libre. Moi, après, je suis libre. Je leur ai donné la consigne, ils vont dedans. Là, non, au coin, c'est le contraire. Eux, ils sont libres, donc c'est moi qui suis obligée d'être très cadrée à ce moment-là. C'est-à-dire, vous voyez, elle se positionne complètement différemment sur sa place au moment de l'atelier, où finalement, elle a préparé, elle a donné une consigne, elle donne une consigne, et ben, les élèves répondent à cette consigne, et elle les surveille, tandis que dans les coins, là, elle les laisse libres, mais alors, elle est très, très vigilante, et elle est très cadrée, et elle observe en particulier. Je continue, toujours la même enseignante. En général, de même, ils se régulent. Alors, pour réguler, il suffit souvent d'apporter un élément nouveau. Là, on est sur une représentation, c'est l'apport de matériel qui régule. C'est-à-dire un nouveau texte à l'atelier écriture, du nouveau matériel au coin science. Souvent, ça redynamise de soi, c'est-à-dire qu'elle régule par l'apport d'un matériel nouveau. Et puis, il y a une autre façon de réguler. Un enfant qui vraiment ne veut pas y aller, ne fréquente jamais certains ateliers, ben on y va avec lui et puis on participe un petit peu avec lui. En gros, on joue avec lui. Elle régule de deux manières dans son discours. Elle régule par l'apport de matériel, la modification du matériel qui est dans ce coin, dans cet espace. Et puis, elle régule en allant avec les élèves dans le coin. Alors, elle parle notamment de l'évolution de son coin dinette. Le coin dinette, c'est pareil. En début de l'année, il va être assez fourni. Et puis, au cours de l'année, je vais enlever pas mal de choses. Je vais le mettre un petit peu plus rudimentaire parce que j'ai envie que les enfants s'orientent un petit peu vers d'autres ateliers. Donc, vous voyez, c'est elle qui, par l'apport de matériel, elle appauvrit son coin dinette. Alors, vous aviez compris, ce ne sont pas des petites sections. On est en train de glisser sur des moyens grands. Et elle voudrait que les enfants se désintéressent un peu de ce coin dinette pour aller se reporter vers d'autres espaces différents.